Radio Tamani, voici nos informations en français.
Bonjour et bienvenue à la matinale de Studio Tamani, voici les titres. Cela fait 4 mois aujourd'hui que la CEDEAO a fermé toutes ses frontières avec le Mali. Certains habitants déplorent les conséquences de ces sanctions sur la vie des citoyens. Des économistes tirent la sonnette d'alarme face à la situation. Les populations de Bla dans la région de Ségou souffrent d'un manque de banques dans la localité. Elles déplorent qu'il n'y ait qu'une banque et 2 microfinances dans la ville. Pour leurs opérations, certains sont obligés de se déplacer vers San, Ségou ou encore Koutchala. Sport, football, le Mali a un nouveau sélectionneur depuis ce week-end. Il s'agit de Eric Sékouchel, ex-défenseur des Aigles du Mali. Qui est Eric Sékouchel? Quelles sont les attentes des Maliens? Des éléments de réponse dans ce journal. À la présentation, Mariam Maïga, Mamadi Ouattara assure la technique. Le Mali est sous embargo de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Depuis ce jour, c'est-à-dire 4 mois aujourd'hui, le 9 janvier 2022, la CEDEAO a donc infligé des sanctions financières et économiques au Mali. Ces sanctions sont entre autres la fermeture des frontières, la suspension des échanges entre autres, les produits de première nécessité. Suite à ces mesures, certains denrées de première nécessité ont connu une hausse. Le syndicat des transporteurs dénonce ces sanctions qu'il qualifie d'inacceptables. Le point avec Omar Weigalo.
Selon le syndicat national des transporteurs routiers urbains et intra-urbains du Mali, les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont ralenti d'une manière considérable leurs activités. Ces responsables affirment que les camions sont toujours bloqués au niveau des corridors. Adama Koulibaly, président du Centri Mali.
Cela a un impact très très négatif sur notre activité. Avec la fermeture des frontières, les camions sont toujours bloqués au niveau de ces corridors-là. Mais il faut reconnaître que les véhicules qui vont chercher les denrées de première nécessité passent. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Même si les produits de première nécessité ne sont pas concernés par l'embargo, ils ont connu une hausse ces derniers mois. La population demande à la CEDEAO et aux autorités de la transition de trouver un terrain d'entente.
L'idéal aujourd'hui, ce serait que nos autorités, n'est-ce pas, et la CEDEAO, en tout cas, aillent dans la même direction. Je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être dans 7-8 mois.
Les sanctions ont été trop lourdes. Je pense que le Mali doit s'assumer. C'est pour la bonne cause.
C'est quand même dur, même si on est fier que le Mali puisse supporter ces 5 mois.
Tout est bouleversé actuellement. Santé, éducation, il faut le reconnaître aussi. Même l'économie nationale est en panne.
Afin de trouver une solution à cette crise, le Mali a demandé au président togolais Faure Yassembe de faire la médiation entre la CEDEAO et les autorités de la transition. Cette demande a été formulée la semaine dernière.
Pour certains économistes, les conséquences de ces sanctions sont énormes non seulement pour le Mali, mais aussi pour les pays membres de la CEDEAO. Ils invitent les deux parties à poursuivre le dialogue afin d'avoir un dénouement heureux de la situation. Omar Bitibani est économiste. Il est joint par Omar Weigalo.
De cet embargo est catastrophique, non seulement pour le Mali et pour la Syrie, et pour les pays membres de la CEDEAO. En termes macroéconomiques, le développement d'un pays est basé sur des bases fondamentales, qui est la production et la valeur ajoutée, qui permet sa croissance. Et si cette croissance est freinée, si l'économie dit la circulation de la monnaie, la circulation de l'argent, mais s'il n'y a pas cette circulation-là, tout est freiné. Le secteur macroéconomique et microéconomique est arrêté. Ce n'est pas du tout bon pour une économie. Pour une économie jeune comme la nôtre, où tout est à refaire, il faudrait que les gens regardent leur carte. Quand on parle de nationalisme, le nationalisme passe par là. Le Mali ne s'est pas préparé en conséquence.
Et rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Parlons à présent de la durée de la transition. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali demande un délai de transition consensus. Ses responsables l'ont fait savoir ce samedi 7 mai lors d'une conférence de presse. L'organisation se dit préoccupée par la situation actuelle du pays. Selon elle, 4 mois après la sanction infligée au Mali par la CEDEAO, il est temps que les autorités de la transition obtiennent un accord. Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, est au micro de Aboubakrine Agmohamedine Yattara.
Nous avons mis en œuvre un programme par rapport au plaidoyer et l'accompagnement des activités durant la transition. Il était important pour nous, non seulement de tirer le bilan de ce qu'on a fait, mais aussi de faire des recommandations par rapport à la réussite de la transition. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est primordial que le gouvernement de la République du Mali et les autorités de la CEDEAO puissent convenir de la durée de la transition. Et la durée doit être tranchée et tous les Maliens doivent savoir quand est-ce que la transition va prendre fin. Mais au-delà de ça, nous avons besoin de savoir aussi quel est le programme électoral qui est proposé par les autorités de la transition. Nous pensons qu'aujourd'hui, au-delà du dialogue qui doit s'insérer avec la CEDEAO, il faut un véritable consensus politique. Nous avons lancé un appel à non seulement au gouvernement, mais aux partis politiques, parce qu'aujourd'hui, la loi électorale qui est sur la table du CNT ne fait pas l'objet de consensus politique.
Parlons de la situation sécuritaire qui reste toujours précaire dans certaines parties du pays. Des enlèvements et des attaques sont signalés à Koro, Djenné et Niafinké. Au même moment, les forces de défense et de sécurité annoncent la neutralisation d'une dizaine de terroristes et 8 interpellations. Le point avec Nana Elisabeth Walet Mohamed Sissi.
Dans le village de Tchokorobougou, commune de Femaï, cercle de Djenné, un groupe de djihadistes a tenté d'enlever 32 femmes, indique le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Après des échanges de tirs avec des chasseurs traditionnels d'Anso, les djihadistes ont fui en laissant les femmes. Il n'y a pas eu de morts ni de blessés, affirme le ministère. Selon le gouvernement, ces femmes sont sous le choc. Les autorités administratives, politiques et traditionnelles sont à leur chevet pour leur prise en charge, souligne-t-il. Pendant ce temps, dans un communiqué publié le vendredi dernier, l'armée malienne affirme avoir mené des opérations à Kouchala, Bougouni et Sikasso sur la base de renseignements et les recherches des terroristes. Dans la région de Nara et de Koulikoro, 16 terroristes ont été neutralisés et 8 interpellés. Une citerne volée à l'énergie du Mali a été récupérée par une patrouille de FAMA sur l'axe Bankas-Badjangara ainsi que des armements, poursuit le communiqué. Notons que des sources locales précisent que le village de Saraféré dans le cercle de Niafunké est toujours assiégé par des hommes armés. Aussi, un rassemblement massif de terroristes avec des véhicules équipés et des motos aurait été aperçu par la population de Baye dans le cercle de Bankas la semaine dernière.
Sur un tout autre sujet, la presse malienne a commémoré hier dimanche la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les responsables de médias ont une fois de plus décrié l'enlèvement et la détention forcée des journalistes. Selon eux, ce secteur est aussi affecté par les effets néfastes de la crise actuelle que traverse le pays. Ils sollicitent le soutien du gouvernement et tous les partenaires. Un reportage de Kouma Finkeita.
Pendant cette journée, les professionnels de la presse ont mis en exergue l'état de la liberté de la presse en cette période de transition. Selon le président de la Maison de la presse, Bandjougou Danté, la célébration de cette journée est intervenue au moment où des journalistes sont privés de leur mobilité et l'amorosité du secteur.
Nous célébrons cette journée dans un contexte marqué par la disparition du journaliste Birama Touré, la détention forcée de Hamadou Niali Bouli, de Moussa Banadiko, d'Olivier Dubois, l'incertitude sur la vie même des télévisions confrontées aux lourdes charges.
L'UNESCO, qui soutient les médias, a indiqué que ces dernières années, près de 400 journalistes ont perdu la vie dans le cadre de leur travail. Djenabou Mariko, représentante de l'UNESCO.
Plus de 5 personnes sur 6 dans le monde vivent dans un pays où la liberté de la presse a reculé au cours des 5 dernières années. Il ressort de nos recherches que plus de 70% des femmes reporters interrogées ont été victimes de violences en ligne. Les auteurs de ces violences agissent en toute impunité.
Cependant, les acteurs de la presse ont également abordé le sujet de la digitalisation de l'information dont le contenu porte souvent confusion. À côté de cela, il invite la transition à appliquer les textes régissant la presse malienne et l'accompagnement de tous les partenaires pour son succès.
Direction Bla, dans la région de Ségou, où une banque et 2 microcrédits, ce sont les 2 services bancaires présents dans la ville. Une situation pénible pour les abonnés aux banques. Des salariés, entrepreneurs ou opérateurs économiques sont obligés d'effectuer le déplacement vers San, Ségou ou encore Kouchala pour toucher leur argent. Cependant, les habitants de Bla demandent aux responsables de banque et aux autorités de multiplier les agences dans la zone. Notre envoyé spécial Moussa Malé Sissoko nous en dit plus.
Pour ces usagers, le nombre des banques sur place est insuffisant au regard des besoins financiers des populations. Elles souhaitent l'arrivée de plusieurs banques à Bla pour alléger leurs souffrances.
Oui, ça nous dérange. Il y a des gens qui reçoivent de l'argent de l'extérieur. Ils sont obligés de se rendre jusqu'à Ségou pour le retrait. Ce serait un soulagement pour nous d'avoir d'autres agences.
Nous vivons une situation difficile. Tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer. S'il y a une banque de plus, nous serons très heureux.
Cet avis est partagé par cet entrepreneur qui a requis l'anonymat. Il dit œuvrer dans le domaine du BTP dans la zone. Notre interlocuteur affirme que c'est un parcours de combattant.
C'est un très grand problème. Je suis obligé d'aller à Ségou, ou bien à Koutiala, ou bien à San pour faire mes remises de chèques. Parce que généralement, moi, mes chèques viennent au compte du Bimessa. Donc, pour avoir ton argent, il va falloir faire la remise. C'est minimum 72 heures. Donc, même la semaine passée, moi, j'ai été obligé de faire une remise, mais jusqu'à présent, j'ai pas encore eu mon argent. Donc.
Rappelons qu'une sous-direction de la Banque nationale du développement agricole BNDA est sur place pour gérer des situations d'urgence. La ville compte aussi deux caisses d'épargne et de crédit. Debla, Moussa Malé Sissoko pour Studio Tamani.
Sport, football, Eric Sekouchel, ex-défenseur des Aigles du Mali, est le nouveau sélectionneur. L'annonce a été faite ce week-end par la Fédération malienne de football. Eric Sekouchel, ancien entraîneur de Marseille Consola et de l'US Boulogne en France, c'est sa première fois de diriger une sélection nationale. Qui est l'homme? Quelles sont les attentes d'un Malien? Pourra-t-il relever les défis? Des éléments de réponse dans ce reportage de Draman Maïga.
Âgé de 44 ans, Eric Sekouchel a évolué dans l'équipe nationale entre 2004 et 2006 en tant que défenseur. Il aura la lourde responsabilité de poursuivre la construction de l'équipe et de faire face aux compétitions à venir. Les amoureux du football malien attendent beaucoup du nouveau sélectionneur.
C'est une fierté d'abord d'avoir un entraîneur qui a déjà pratiqué, qui connaît aussi l'équipe nationale. Il est aussi malien que le football malien puisse retrouver un peu ses lettres de noblesse.
Nous voulons vraiment que les Aigles du Mali soient vraiment au sommet du foot.
Avec l'arrivée du nouveau entraîneur, je souhaite que l'équipe malienne aille loin. Si l'État investit, il faut qu'il y ait des résultats.
Bien qu'il soit imprégné du monde sportif malien, les experts dans le domaine estiment qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur Eric Sekouchel. Souleymane Bobo Tunkara, directeur de publication français à l'AMAP.
Je pense que le fait de le choisir, c'est un pari qu'on fait sur l'avenir. Il ne faut pas tout de suite s'attendre à des résultats. S'il a des résultats dans l'immédiat, pour moi, ça, c'est un bonus. Il faut lui donner le temps de reconstruire l'équipe. Il faudra que lui aussi amène un nouvel état d'esprit de travail, surtout au niveau de la communication.
Le défi immédiat pour le tout nouveau sélectionneur est la qualification des Aigles du Mali à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire en 2023. Pour les éliminatoires, le Mali affrontera dans le groupe G le Congo-Brazzaville, la Gambie et le Soudan du Sud. Son premier match officiel sera le 4 juin face au Congo.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Mamadou Ouattara a assuré la technique. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car l'info continue. L'insalubrité dans la ville de Massina, située dans la région de Ségou, est dénoncée par les habitants de la localité. Ces derniers estiment que cette situation est à la base de plusieurs maladies. Le maire de la commune rappelle que les responsabilités sont partagées. Il tente aussi de rassurer que la mairie est à pied d'œuvre pour mettre fin à cette situation. Le magazine Parlons de l'environnement est présenté par Mahaman Babakunta.
Le magazine Parlons de l'environnement.
Dans la ville de Massina, l'état d'ordure se multiplie aujourd'hui dans les rues. Les eaux usées se retrouvent aussi dans les fleuves Niger. Ces constats sont faits par des citoyens de la localité. Certains d'entre eux réagissent au micro de notre correspondant sur place, Sekou Abdelkader Traoré.
Du fait que Massina soit sale, la première responsabilité incombe même de la population.
Oui, Massina est sale. Il y a les mosquées partout. Pendant la saison, la pluie, il y a de l'eau partout, pas de carimbo. Vraiment, nous les femmes sommes fatiguées. Les rues de Massina sont sales, les ordures sont partout. C'est les populations qui sont à la base de cette saleté.
Je peux dire que nous sommes tous responsables parce que si nous prenons le maire est élu par un ensemble de conseillers, par la même population. Et cette population devrait intervenir, soit à travers des jurys, soit à travers des organisations de jeunesse pour intervenir de façon à rendre vraiment la ville éco-quête. Mais si cela ne se fait pas, et tout le monde, par exemple, baisse les bras, donc forcément, il y aura cette situation désastreuse qui serait créée. Et si tout le monde balayait devant sa porte, vraiment, on ne serait pas là.
Cette insalubrité à Massina est aussi confirmée par le maire de la commune, Mourzouk Yatara. Il estime que c'est devenu un véritable casse-tête. Toutefois, pour Mourzouk Yatara, tout le monde est fautif. Citoyens comme élus locaux, dit-il. Le maire est au micro de notre correspondant, Sekou Abdoulkader Traoré.
Aujourd'hui, chacun ne veut pas fournir un effort pour pouvoir vraiment dégager vraiment les saletés ménagères, dégager vraiment de ses soins. Chacun trouve le moyen vraiment de les déverser directement dans les rues ou derrière les maisons vraiment d'autrui. Les différents responsables vraiment c'est nous-mêmes. L'agent de l'assainissement et la mairie sont à pied d'œuvre.
Les déchets domestiques, notamment les sachets et bouteilles, sont des sources de pollution. Abdraman Sanogo, du bureau de Tide Sahel Environnement, souligne également que ces déchets brûlés produisent du gaz nocif et toxique pour les autres humains.
Et il n'y a pas que les déchets plastiques. Il y a énormément de déchets dans les rues de Kemasina, l'un des premiers cercles de ce pays. Les responsabilités sont réellement partagées. Mais moi, je pense qu'au premier chef, il faudrait incriminer les services techniques de la localité, puisque c'est eux qui ont été formés pour ça. C'est leur travail et ils sont là-bas pour cela. Ils devraient, après avoir constaté cet état de fait, alerter les élus locaux afin qu'ils prennent des dispositions ensemble. Donc si cela n'a pas été fait, on ne peut que faire des reproches aux services sanitaires. Et vu la situation, je crois qu'il est urgent de prendre certaines décisions. Ne serait-ce que quelques GIE dans la ville pour enlever les ordures. Pour le moment, pas besoin de recyclage, ils peuvent aller par étapes. Mais le plus difficile, c'est de commencer, c'est d'installer les poubelles dans la ville, sensibiliser la population à l'usage de ces poubelles-là et qu'il y ait un GIE organisé ou des GIE organisés pour le retrait de ces ordures-là et les amener à un dépôt que la mairie doit réellement les indiquer.
Il faut également l'implication à hauteur des souhaits des autorités communales et coutumières dans la lutte contre l'insalubrité, ajoute l'environnementaliste Soumaïla Cissé.
Le chef de village et ses conseillers doivent aussi participer à la mobilisation de la population pendant les journées de salubrité ou bien même organiser des campagnes de salubrité dans les différents carrés, dans les différentes villes, etc. Et aussi, les autorités doivent s'impliquer beaucoup plus pour sensibiliser la population de l'importance de la protection et de la promotion de l'environnement. Et troisièmement, l'implication des plus hautes autorités, je parle ici du ministère même de l'éducation, pour intégrer le comportement éco-environnemental, c'est-à-dire intégrer un module spécialement pour montrer aux enfants l'importance de la protection et la promotion de l'environnement.
C'est ce qui me fait à ce magazine Parlons de l'environnement, réalisé et présenté par Mahamane Baba Kunta. À la semaine prochaine pour un autre numéro.